l'Église orthodoxe aujourd'hui.
Chers auditrices et auditeurs, bonjour. Au microphone, Laza Saba
et Bogdan Sorin Vlaiku. L'Église orthodoxe célèbre aujourd'hui la fête de l'entrée au Temple de la Mère de Dieu. Comme il s'agit d'un événement de l'enfance de la très sainte Vierge Marie, il est mentionné non pas dans les saints évangiles, mais dans la sainte tradition de l'Église.
Le plus ancien écrit connu relatant cet épisode date du milieu du IIe siècle et porte le titre de Nativité de Marie, Révélation de Jacques. L'humaniste français qui l'a publié en Occident au XVIe siècle l'a appelé le protévangile de Jacques parce que ce texte relatait surtout des événements antérieurs au récit des évangiles canoniques, à partir de l'histoire des parents de la Vierge Marie jusqu'à l'assassinat de Zacharie, le père de Saint Jean-Baptiste. Le début de ce livre de Jacques nous présente la tristesse des saints époux, Joachim et Anne. Étant déjà âgés et n'ayant toujours pas d'enfants, cela était très mal vu à l'époque et était considéré comme une malédiction de Dieu. Mais Joachim, n'ayant pas perdu son espérance, a décidé de se rendre dans le désert pour jeûner et prier en se disant
« Je ne descendrai plus manger ni boire avant que le Seigneur mon Dieu m'ait visité. La prière sera ma nourriture et ma boisson. »
Pendant ce temps-là, son épouse Anne a jeûné et prié aussi à la maison. Ce récit est une belle image sur l'importance du jeûne qui peut nous encourager pendant cette période du carême de la Nativité du Christ.
Car après 40 jours de jeûne, un ange du Seigneur annonçait à Anne et à Joachim que Dieu a entendu leur prière et qu'ils auront un enfant. Alors Anne a fait cette promesse.
Aussi vrai que vit le Seigneur Dieu, je ferai don de mon enfant au Seigneur mon Dieu, et il le servira tous les jours de sa vie.
Ensuite Joachim est entré à la maison et a rencontré Anne. Le texte mentionne que
Joachim, ce premier jour, resta chez lui à se reposer. Cette indication suggère la conception naturelle de la très sainte Vierge Marie. 3 ans après la naissance de leur fille, Joachim et Anne ont décidé d'accomplir leur promesse. Voilà comment le livre de Jacques relate cet événement célébré aujourd'hui. L'enfant eut 3 ans. Joachim dit
« Appelons les filles des Hébreux, celles qui sont sans tâche, que chacune prenne un flambeau et le tienne allumé. Ainsi, Marie ne se retournera pas et son cœur ne sera pas retenu captif hors du temple du Seigneur. »
L'ordre fut suivi, et elles montèrent au temple du Seigneur. Et le prêtre accueillit l'enfant, et l'ayant embrassé, il l'a béni et dit
« Le Seigneur Dieu a exalté ton nom parmi toutes les générations. En toi, au dernier des jours, le Seigneur manifestera la rédemption au fils d'Israël. »
Et il la fit asseoir sur le 3e degré de l'autel, et le Seigneur Dieu répandit sa grâce sur elle. Et ses pieds esquissèrent une danse, et toute la maison d'Israël les mains. Ses parents descendirent, émerveillés, louant et glorifiant le Dieu souverain qui ne les avait pas dédaignés. Et Marie demeurait dans le temple du Seigneur, telle une colombe, et elle recevait sa nourriture de la main d'un ange.
Ce texte a été une importante source d'inspiration pour les hymnes liturgiques et pour l'icône de la fête. Pour nous parler de la signification de la fête de l'entrée de la Mère de Dieu dans le temple, nous avons invité aujourd'hui le père archimandrite Job Getcha, enseignant à l'Institut de théologie orthodoxe en Serge à Paris. Père Job, parlez-nous s'il vous plaît de l'histoire de cette fête de l'entrée au temple de la Mère de Dieu.
La fête de l'entrée au temple de la Mère de Dieu est l'une des fêtes les plus récentes en l'honneur de la Mère de Dieu que l'Église a instituée. En effet, on la retrouve qu'à partir du 8e siècle, c'est donc cette époque qu'elle apparaît. Il semblerait qu'on ait institué cette fête en lien, en comparaison avec la fête de la Sainte Rencontre. Vous savez qu'on fête le 40e jour après la Nativité du Christ, la fête de la Sainte Rencontre, et par conséquent, il semblerait qu'inspiré cette fête de la Sainte Rencontre au Temple du Christ, le 40e jour après sa naissance, l'Église ait pensé à instituer une fête en l'honneur de la Mère de Dieu, et il semblerait que, à l'origine, ce soit le commandement de la loi de Moïse, qu'une fille nouvellement née soit présentée au Temple 80 jours après sa naissance. On trouve des traces de cela, dans le nom qui a été préservé dans la tradition latine, pour cette fête, de présentation au temple. Mais, par la suite, on a eu recours, pour les textes liturgiques de cette fête, au protévangile de Jacques, qui est donc le texte apocryphe que vous avez déjà cité, dont on s'est largement inspiré, et c'est là qu'il y a eu un déplacement. On a fait de cette fête la fête de l'entrée au temple, puisque, d'après ce texte, la Mère de Dieu a été présentée au temple à l'âge de 3 ans. Donc il y a eu un décalage par rapport à ce qui serait l'origine de cette fête, et on a fait donc de cette fête une fête donc de préparation, la Mère de Dieu, à l'âge de 3 ans, est amenée au temple pour y être reçue par le prêtre Zacharie, et pour se préparer ainsi à son rôle qu'elle jouera plus tard.
Quelle est la signification de cette fête? Parce qu'elle semble à souligner d'une manière très forte la pureté de la Mère de Dieu, de la Sainte Vierge Marie.
Oui, effectivement. Disons, on pourrait même se demander pourquoi l'Église a-t-elle institué une telle fête qui, disons, les critiques modernes mettent en cause l'historicité, puisque donc c'est une fête tardive, c'est une fête qui se base sur des textes apocryphes, pourquoi la fêter? En fait, le sens profond de cette fête est évidemment le sens donc, de préparation au rôle joué par la Mère de Dieu dans l'économie du salut. C'est en fait donc la Mère de Dieu, enfin la Vierge Marie est présentée au temple, elle fait son entrée dans le temple, elle y est menée par ses parents, pour en fait devenir elle-même le temple de Dieu. C'est ici un thème qui est fondamental dans la littérature papistique chez les pères de l'Église, qui voient, disons, la Mère de Dieu comme véritable temple, le véritable temple de Dieu, dans lequel Dieu va s'incarner, dans lequel le Verbe va se faire chair. Et ainsi, elle va hériter toutes les désignations de l'Ancien Testament, qui seront reprises par exemple dans l'Immacatiste. La Mère de Dieu sera la nouvelle Arche d'Alliance, elle sera le nouveau Temple, elle sera le nouveau Tabernacle. Et donc, cette fête, c'est la Mère de Dieu qui fait son entrée dans le Temple de Jérusalem, en préparation pour devenir elle-même le Temple qui va accueillir en son sein le Verbe de Dieu qui va s'incarner pour le salut de l'humanité.
Père Job, cette fête apparaît assez tardivement et s'est inspirée d'une tradition de l'Église basée sur un texte apocryphe que nous avons cité. Pourquoi ce texte qui n'a pas été reçu par l'Église jamais en tant que texte canonique demeure toujours une source d'inspiration importante pour plusieurs fêtes de l'Église orthodoxe?
Vous avez des textes à caractère historique sur lesquels les historiens peuvent se baser comme des documents pour construire, pour écrire l'histoire du pays, l'histoire donc, du monde. Et à côté, vous avez des romans historiques qui s'inspirent de l'histoire, mais évidemment qui sont romancés. Donc les historiens ne peuvent pas se baser sur des romans historiques pour construire l'histoire. Mais un roman historique peut parfois éclairer, nous apporter certaines idées, apporter quelque chose à la réflexion. Donc, la même chose, l'Église ici a distingué d'une part les textes canoniques, les textes qui étaient tout à fait solides et fondés, sur lesquels l'Église donc, construit le dogme, la doctrine, et à côté, elle a conservé un certain nombre de textes qui étaient un peu romancés, qu'elle ne garde pas dans le canon des Écritures, elle ne considère pas comme des textes canoniques, mais elle les a gardés puisqu'elles peuvent apporter une source d'inspiration pour la réflexion sur la méditation de certains mystères dont on sait peu de choses. Et c'est ainsi que certains textes apocryphes, qui ne sont pas hérétiques, mais qui ont un caractère un peu romancé, qui sont en quelque sorte un peu des commentaires romancés des évangiles, ont été une source d'inspiration pour l'Église, pour la liturgie et pour l'iconographie.
Chers auditeurs, le vendredi 12 novembre, à la paroisse orthodoxe Saint-Séraphin de Sarov à Paris, l'archimandrite Siméon du monastère Saint-Jean-Baptiste de Maldon en Angleterre a donné une conférence intitulée « Saint-Chilouane et Persophronie, du mot Athos à l'Occident, une spiritualité pour le monde contemporain ».
Saint-Chilouane a été moine au monastère russe de Saint-Barthélemy au mont Athos, où il a vécu une vie de sainteté qu'il a cachée de ses contemporains par sa grande humilité. Mais après sa mort le 24 septembre 1934, son seul disciple direct, l'archimandrite Sophronie, a consacré son œuvre à faire connaître la personnalité du staré Chilouane en diffusant et en commentant ses écrits. Après avoir vécu en ermite à la Sainte Montagne, Père Sophronie a passé quelques années en France comme étudiant à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge de Paris et comme prêtre à la paroisse russe de Sainte-Geneviève-des-Bois. Ensuite, il a déménagé en Angleterre où il a fondé en 1959 le monastère orthodoxe de Saint-Jean-Baptiste à Maldon, en Essex, près de Londres, qui est le premier établissement monastique orthodoxe de ce pays. Par son livre « Staré Chilouane, moine du mont Athos, vie, doctrine, écrit », publié à Paris en 1973, qui est une adaptation du texte original russe écrit 25 ans plus tôt, traduit ensuite dans une vingtaine de langues et distribué dans tous les pays de l'Europe occidentale, aux États-Unis et également dans les pays orthodoxes, Saint-Chilouane est devenu très connu dans tout le monde chrétien, bien avant sa canonisation par l'Église orthodoxe en 1987. La traduction en français des écrits de Saint-Chilouane et des livres de l'archimandrite Sophronie a été réalisée par le Père Siméon.
D'origine suisse, celui-ci est président de l'association Saint-Chilouane Latonite, dont nous avons présenté sa 11e rencontre qui a eu lieu le mois dernier à l'Institut Saint-Serge de Paris. À la lumière du square de Cierges, dans l'église en bois de la paroisse Saint-Séraphin de Sarov à Paris, l'archimandrite Siméon nous a parlé de Saint-Chilouane, de Père Sophronie, qu'il a connu personnellement, et a traité, dans un troisième temps, du thème « Une spiritualité pour le monde contemporain ». Nous vous présentons cette troisième partie de la conférence.
Une spiritualité pour le monde contemporain. Premièrement, qu'est-ce que c'est que le monde contemporain? Je pense qu'on pourrait lui appliquer ce que saint Antoine déclarait lui-même à son époque. Dans une de ses paroles, dans ses aphorismes, il dit « Un temps vient où les hommes deviendront fous ». Et lorsqu'ils rencontreront quelqu'un qui ne l'est pas, ils se tourneront vers lui en disant « Tu déraisonnes ». Et cela parce qu'il ne leur ressemble pas. Le monde qui nous entoure est, dans ce sens-là, bien ce monde qui considère que ceux qui croient en Dieu et qui veulent mener une vie conforme à l'Évangile sont fous. Donc, c'est ça le monde contemporain. Mais ce que le Père Sophronie et le Saint-Chilouane peuvent nous apporter, c'est une parole de moine, une parole qui procède de leur expérience monastique. Je vois, est-ce que je suis peut-être trop pessimiste, mais enfin, entre le monde contemporain, ce monde dont parle Saint-Antoine, et la vie monastique, ou ce que la vie monastique voudrait être, j'y vois une antinomie totale. Le monachisme, pour moi, n'est rien d'autre qu'une sorte d'essai de vivre l'Évangile dans son intégralité. Et il se résume d'une façon un peu extérieure, bien sûr, on ne peut pas le ramener à cela, mais malgré tout, il a dans sa constitution les vœux monastiques. Le monachisme vit sur ce trépied qu'est la non-acquisition, la pauvreté monastique. Or, nous vivons dans une société qui vise juste l'opposé. Ce qu'on appelle la société de consommation, consumerisme. Toutes les réclames, tous les journaux, tous les mass médias et toute la vie quotidienne ne poussent qu'à acquérir et de plus en plus vite. Je suis étonné avec quelle vitesse, quand il y a un nouveau gadget qui apparaît sur le marché, avec quelle rapidité, par effet de mimétisme, tout le monde veut le suivre. Il y a un nouvel appareil de photos qui est en numérique, tous les vieux sont rejetés et tout de suite tout le monde a un appareil numérique, et ça dans une rapidité, etc. Donc, entre la non-acquisition, l'esprit de pauvreté évangélique ou monastique, et ça, il y a vraiment antinomie. Autre opposition. Le monachisme est basé sur la virginité et la chasteté. Or, la société contemporaine vit et encourage une licence dans les mœurs, un hédonisme sans limite. Là, il y a également opposition. Troisièmement, le monachisme est basé sur l'obéissance, sur l'esprit d'obéissance, alors que le monde encourage, enseigne, pousse à l'affirmation de soi, à la compétitivité et, d'une certaine manière, à l'agressivité. Là, entre un idéal monastique et l'idéal du monde, il y a conflit complet. Un quatrième point, celui de la stabilité monastique. Quand on entre dans un monastère et qu'on fait ses vœux, c'est pour y rester. Il y a une sorte de... Ce n'est pas une chose qu'on peut changer ou abandonner le jour où ça vous plaît plus. Il y a une sorte de stabilité, un projet pour toute la vie. Or, dans la société, il me semble constater une instabilité extrême. Je prends que deux exemples, mais je pense qu'on pourrait bien trouver bien d'autres. Le plus proche de moi, j'étais pendant de nombreuses années hôtelier de notre monastère. Disons, il y a, au début de ma carrière d'hôtelier, c'était quand même le monde déchu déjà, mais quand même, lorsque les gens vous disaient « je viendrai telle date » et « je partirai telle date », il y avait une certaine fidélité à la parole ou à ce qui avait été décidé. Je pouvais compter que les gens viennent à ce moment-là et partent à ce moment-là. Je pouvais donc faire un plan. Maintenant, impossible. Les gens ne viennent pas, ou viennent avant, ou viennent après, et la même chose avec les départs. Une instabilité totale. Et je ne dis pas que chacun individuellement est responsable. Il est lui-même poussé par d'autres individus instables. C'est donc une sorte d'instabilité collective et totale. Bon, c'est un peu secondaire, mais plus grave, l'instabilité dans le mariage. Nous voyons que les gens s'engagent dans une voie de mariage, quand ils y engagent d'ailleurs. Mais quand ils s'y engagent, malgré tout, jusqu'à présent, même les mariages civils sont considérés comme des mariages devant durer à vie. Or, vous savez mieux que moi quelle est la proportion énorme des divorces. Il y a un divorce sur deux ou trois mariages. Cela est une énorme instabilité. Troisième point de ce monde contemporain auquel nous devons apporter une réponse, c'est le relativisme. Le relativisme semble rapprocher les hommes qui cessent de s'opposer entre eux. Mais le relativisme qui refuse à qui que ce soit, qui refuse à quoi que ce soit, hormis soi-même, tout caractère absolu, promet de réconcilier tout le monde, mais s'y prend de telle façon qu'il n'y aura plus personne à réconcilier. Disons, nous qui sommes orthodoxes et pas trop relativistes, nous disons que nous croyons que l'Église orthodoxe ne dirait pas à la vérité, parce qu'on ne peut jamais l'avoir, puisque la vérité c'est le Christ, mais quand même est porteuse ou prêche la vérité, ça semble inacceptable. Ça semble ou de l'orgueil ou inaccessible, parce que tout est relatif, on ne peut jamais dire qu'il y a des vérités absolues. Quand même, le dogme de la Sainte Trinité ou de la divinité du Christ, c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas à la fois être chrétien et dire que oui, on peut l'être, mais on peut penser autrement s'il le faut. Donc, nous ne pouvons pas accepter un relativisme total. Ce relativisme, à la longue, risque de réconcilier les chrétiens et le monde, alors que les chrétiens ont en fait constamment à choisir entre le Christ et le diable, le prince de ce monde, comme dit saint Paul. Ici, il y a effectivement de nouveau une absence de compatibilité.
Thank you.
même dire que ce monde contemporain, c'est au fond un monde post-chrétien, un monde formé de chrétiens, d'ex-chrétiens et de non-chrétiens. Il y a dans ce monde contemporain des gens qui n'ont jamais été chrétiens. Nous sommes dans une société pluraliste. Et je crois que nous ne devons pas oublier que cette société est pluraliste. Et si nous voulons avoir une spiritualité pour le monde contemporain, nous devons avoir en vue, à vrai dire, d'apporter la bonne nouvelle, pas seulement aux petits troupeaux des émigrés ou de quelques convertis, mais à la société tout entière. Si nous avons comme but la conversion au Christ de tous les hommes, alors cette spiritualité, à mon avis, c'est une chose qui souvent attire à l'orthodoxie. Mais c'est une situation un peu dangereuse, parce que nous ne pouvons pas isoler la spiritualité de deux autres choses. La vision dogmatique et l'Église. Et Perceval, d'une façon très dense, a exprimé cela de la manière suivante. Il y a trois choses que je ne veux pas comprendre. Un christianisme non dogmatique, un christianisme non ecclésial et un christianisme non ascétique. Et ces trois choses, pour moi, forment une seule vie. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas être vraiment chrétiens si nous n'avons pas, adhérons pas aux foies, aux dogmes fondamentaux de l'Église, qui sont une explicitation du credo, de ne pas croire en la Trinité, la divinité du Christ, et dans tous les autres dogmes fondamentaux. Le danger de cette attitude, si on veut, disons, avoir une vision dogmatique, mais isolée des autres, c'est tomber dans une sorte de rationalisme. Souvent la théologie peut devenir une sorte de rationalisme et même d'intransigeance mentale vis-à-vis des autres. Ne pas avoir un christianisme ecclésial, ça veut dire c'est s'isoler des autres, de ne pas participer à la vie sacramentelle de l'Église, en particulier de l'Eucharistie. C'est une forme de piétisme. Donc, nous ne pouvons pas avoir une vie chrétienne en tant que piétiste qui ignore précisément le corps entier de l'humanité pour lequel nous devons prier, et que Persephone y appelait l'Adam total. Et le troisième, un christianisme sans ascèse, c'est-à-dire qui ne cherche pas à faire un effort personnel et de prière et de souci pour le salut de tous les hommes. Comment pouvons-nous proposer à ce monde contemporain une spiritualité, mais plus qu'une spiritualité, car elle doit être entourée précisément d'une vision dogmatique et d'une vie ecclésiale qui lui soit accessible. J'ai eu une expérience avec un hindou. Il voulait se marier avec une roumaine qui était orthodoxe et lui était hindou. Alors j'aurais dit que voilà, c'est un problème là, parce que pour se marier, il faut être baptisé. Alors, pour lui, il ne voyait pas trop de difficultés à absorber le Christ dans son panthéon hindouiste. Mais à un moment donné, il s'est mis à parler de la réincarnation et des milliers de réincarnations auxquelles il est exposé si, durant sa vie, en tant qu'être humain, il n'accomplit pas la loi de son état en tant qu'humain et qu'il pourrait retomber dans une sorte de... pourrait devenir un serpent ou bien un oiseau, juste comme ça. J'ai compris que je ne pouvais rien lui dire. J'étais bouche bée, ou qu'il aurait fallu parler des heures et des semaines. Et après, je me suis dit, mais comment les premiers chrétiens sont-ils pris pour convertir l'Empire romain, dont le paganisme n'était finalement pas si différent du paganisme, disons, hindou. Et je me suis dit, finalement, ce qui a converti l'Empire romain dans les premiers siècles, ce sont les martyrs. C'est la force du martyr qui a converti. Bien sûr, il y a eu la prédication des apôtres et de ceux qui sont venus après, mais cette prédication était accompagnée et doublée par un témoignage personnel du martyr. Et souvent, ceux qui martyrisaient se convertissaient eux-mêmes quand ils voyaient qu'on était prêt à mourir. Et Justin, martyr, qui était un philosophe lui-même, disait, Socrate n'a pas réussi à faire mourir une seule personne pour suivre sa doctrine. Mais le Christ, c'est par des dizaines de milliers qu'on est prêt à mourir pour le suivre. J'ai pensé qu'après les martyrs, et si on regarde le calendrier de l'Église, qu'est-ce qu'on voit? Au début, c'est les martyrs, ensuite, c'est les moines. Donc je pense que le monachisme a un rôle essentiel à jouer dans cette œuvre de conversion au Christ de la société contemporaine, qu'elle soit formée de chrétiens ou même de non-chrétiens.
Le mercredi dernier, le père archiprêtre Nicolas Ozoline a été décoré des insignes de chevalier dans l'Ordre national du mérite à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge de Paris. Les insignes lui ont été remis par Monsieur le ministre Jean de Guéneuque de Boisu, qui, dans sa présentation, a souligné le mérite de père Nicolas Ozoline en tant que prêtre et théologien orthodoxe, comme professeur d'iconologie et de théologie pastorale à l'Institut Saint-Serge et comme participant au service public de par la réalisation de l'émission Orthodoxie sur France 2 depuis près de 20 ans.
Chers auditeurs, la parole Saint-Étienne des chrétiens orthodoxes d'Antioche vous invite à une soirée intitulée « Voyage au monde de l'icône orthodoxe ». Les deux conférences projections seront animées par Mahmoud Zibawi, qui parlera de la tradition iconographique en Orient, l'école d'Alep, les icônes du Liban, et Grégoire Aslanov, qui présentera la tradition iconographique russe en France à travers l'œuvre de Leonid Ouspensky et du moine Grégoire Krug, le vendredi prochain, 26 novembre, à 19h30, au centre Boileau, 43 rue Boileau, dans le 16e arrondissement de Paris, métro Michel-Ange Molitor. Chers auditeurs, selon la tradition fraternelle maintenant établie, et sur invitation du cardinal Jean-Marie Lustiger, archevêque de Paris, un office orthodoxe des Vêpres de la fête de Saint-Denis et la Réopagite sera célébré le dimanche prochain, 28 novembre, à 17h, à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Plusieurs membres de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France vont participer à cet office. Chers auditeurs, nous vous invitons à écouter toutes nos émissions précédentes sur le site internet de l'émission à l'adresse suivante ortradio.free.fr, je répète, ortradio.free.fr, et de nous faire part de vos impressions en écrivant à l'adresse de Radio Notre-Dame ou à l'adresse électronique ortradio.free.fr, je répète, ortradio.free.fr.
Vous venez d'entendre l'émission L'Église orthodoxe aujourd'hui.
Une émission présentée par Nada Saba et réalisée par Bogdan Florin Vlaïkou.
Les chants liturgiques ont été interprétés par le chœur des moines des monastères Simonos Petra au Mont Athos et Saint-Antoine le Grand dans le Vercors et par la chorale Saint-Jean Damascène de Paris.
Nous vous souhaitons une semaine emplie de joie spirituelle et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain à 13h sur Radio Anguin 98 FM et dimanche prochain à 17h sur Radio Notre-Dame 100.7 FM.